7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Aujourd'hui, nous parlons de la faillite de l'école en Grèce. La génération perdue peut-elle rebondir? Certes, la Grèce, avec la victoire de Syriza aux dernières élections législatives et puis les renégociations avec les créanciers, ne connaît pas le chaos annoncé, mais au quotidien, comment se projettent aujourd'hui les familles pour leurs enfants? Dans quel état se trouve l'école après plusieurs années de récession économique, d'austérité budgétaire, de manque de réformes aussi? Les étudiants les plus aisés partent faire des études en Europe, les autres se bricole un avenir dans les universités grecques. Alors la génération sacrifiée peut-elle rebondir dans un pays où, rappelons-le, près de la moitié des jeunes de moins de 25 ans est au chômage? C'est la question que nous allons poser à nos invités aujourd'hui. Joëlle Dallègre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste de la Grèce et pour cause, vous êtes maître de conférence à l'INALCO. L'INALCO, c'est l'Institut des langues orientales. Nicoletta Roussou, bonjour.
Bonjour.
Vous avez 25 ans, vous êtes étudiante grecque à Paris. Vous êtes en master de communication à l'université Paris 2. Vous êtes arrivée l'année dernière, hein, c'est ça?
Oui.
Oui. Et vous avez obtenu votre licence à l'université d'Athènes.
C'est ça.
Vous vous considérez, Nicoletta, aujourd'hui comme un cerveau en fuite? Je vous pose d'emblée la question parce que...
Oui, en fait, c'est bien parce que je... c'est une expérience concrète et parce que je fais mon parcours universitaire dans deux universités, en Grèce et en France. Mmh. C'est bien différent, mais c'est quand même très génial parce que de cette manière, je pourrais enrichir mon expérience et mes connaissances. Mmh.
Vous faites partie, en tout cas, depuis le début de la crise financière qui a frappé la Grèce, de ces plus de 130 000 jeunes diplômés qui ont quitté leur pays, puisque vous êtes parti avec votre licence en poche sur un petit pays, 11 millions de Grecs. Nous serons également en ligne avec une enseignante de lycée à Athènes et une professeure d'université qui nous parlera, entre autres, de l'absentéisme chronique de ses étudiants pour cause de petit job et comment son université tente de développer aussi parfois des cours à distance, car c'est aussi cela, la crise grecque. Et bien sûr, les voisins, si vous souhaitez poser toutes vos questions à nos invités, vous pouvez nous appeler 33 1 84 22 71 71 et puis vous continuez de poster vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards. Nicoletta Roussou, alors à quoi ressemble l'université, le système éducatif que vous avez quitté? Racontez-nous un peu votre parcours, est-ce que vous viviez?
D'accord. Moi, c'est un peu particulier parce que, en fait, mon parcours est divisé en deux périodes, avant la crise et après la crise. Avant la crise, c'était mieux parce que on était plus optimiste, les salaires des professeurs étaient plus hauts, et donc il n'y avait pas si on n'avait pas cette manque de stabilité et de l'organisation que je pense que cette manque c'est le facteur la raison principale pour l'aggravation des problèmes du système éducatif en Grèce. Mmh. Et après la crise, on avait beaucoup de problèmes parce qu'il y avait beaucoup de grèves. Le personnel administratif affrontait beaucoup de problèmes. Il y avait parfois il n'y avait personne dans le secrétariat pour nous aider.
Pendant plusieurs jours d'affilée.
Oui, exactement. Mais c'est pas les connaissances qu'on pourrait accueillir, le niveau des études est forcément affecté par cette situation, même si les professeurs et les étudiants étaient d'un bon niveau.
Vous vouliez partir coûte que coûte, Nicoletta Roussou?
Pardon?
Vous vouliez partir, tout faire pour partir?
En fait, si même s'il n'y avait pas la crise, je voulais partir parce que je voudrais étudier à l'étranger. C'était mon rêve, mais mes parents ne pouvaient pas me soutenir pendant la licence. Donc, j'ai décidé de déménager dès que j'ai pris ma licence pour poursuivre des études supérieures.
Et aujourd'hui, alors justement, financièrement, est-ce que vous êtes aidée par votre famille Grèce qui vous aide à faire vos études en France à l'heure actuelle?
C'est vrai, mais c'est un truc qui est très... Tous les parents font des sacrifices pour aider
Plus qu'avant, peut-être même, d'ailleurs, ce sacrifice, il est plus important.
C'était
pour les familles.
C'était toujours comme ça, même mes grands-parents voulaient soutenir mes parents pour acquérir leur diplôme et tout ça. Même s'il y avait pas un niveau d'éducation de bac plus.
Que font vos parents dans la vie, Nicoletta?
Mon père est un fonctionnaire. Et ma mère a fait sa licence en finance.
Donc ils sont encore un peu épargnés par la crise.
Ils sont affectés, oui, tout à fait.
Joëlle Dallègre, dans quel état est le système éducatif grec aujourd'hui? Parce que on a beaucoup parlé de l'effondrement du système de santé, moins de l'effondrement du système éducatif.
Bien, l'effondrement du système de santé, il se constate tout de suite. Donc, on peut pas y échapper. Donc, c'est normal qu'on en parle davantage. Et l'effondrement du système éducatif, il est partiel. Je veux dire, il y a toujours un système éducatif qui fonctionne. Mais c'est vrai qu'il souffre de tout ce qui l'entoure. Il était déjà souffrant avant et qu'évidemment, ça s'est aggravé puisque d'abord, tous les gens qui enseignent dans le public sont des fonctionnaires, donc ont tous vu diminuer drastiquement leur salaire, ont vu aussi éventuellement leur poste supprimé ou quand ils n'étaient pas titulaires, ils ont disparu. Alors, comme au niveau du secondaire, on a supprimé des choses dans le primaire aussi, ça veut dire qu'ils ont été envoyés quelque part ailleurs sur le territoire, ce qui n'est pas non plus un truc qui, en général, vous met en joie quand c'est vraiment complètement loin. On supprime des écoles là où il n'y a pas beaucoup d'élèves parce que on veut faire des économies, mais on n'en crée pas là où, inversement, il y a beaucoup d'élèves. Donc, on fait des acrobaties dans certains endroits pour arriver à recueillir les gens. Et puis, il y a la vie, effectivement, des étudiants qui, eux, sont sacrifiés, non pas vraiment par l'école, sont sacrifiés par l'économie en place. C'est-à-dire que ça fait 5 ans qu'on leur explique que, finalement, il y a aucun espoir, ou presque, de trouver quelque chose, d'où le départ. J'ai trouvé un article, il y a 2 jours, d'un journal grec qui expliquait que, peut-être dans 15 ans, ça s'arrangerait. Alors, quand vous avez 15 ans, ça vous encourage, hein. Peut-être. Hein. Et puis même dans le secondaire, moi j'ai une amie qui enseigne dans le secondaire, dans une île, à qui les braves petits enfants ont dit: mais madame, vous fatiguez pas, vous savez, nous on sait déjà lire et écrire et compter. Donc du moment qu'on sait l'anglais pour parler aux touristes, on a besoin de rien d'autre. Donc vous êtes là, vous fatiguez à vouloir nous enseigner plein de choses. C'est pas la peine, puisque c'est vrai que quand on dit aux gens: ah, il y a du tourisme, c'est merveilleux, la Grèce est sauvée, mais ça vous donne quoi comme emploi? Je veux dire, servir des kebabs, du coca et faire ménage dans les chambres.
Nicoletta Rousseau, vous, vos amis que vous avez laissés à l'université d'Athènes, dans quel état d'esprit étaient-ils? Ils vous enviaient de partir, de quitter le pays?
En fait, la plupart de mes amis de l'université sont partis déjà. Oui.
La plupart de vos amis, mais alors...
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
La moitié de vos amis licence sont partis. Ont quitté l'université, ont quitté la Grèce.
Oui. Ils ont choisi l'Angleterre parce que les Grecs parlent anglais très 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 bien. Et là, je pense que oui, c'est la raison principale pour ça.
Alors, la génération sacrifiée peut-elle rebondir? Les voisins, n'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions sur Facebook, Twitter, hashtag 7 milliards, ou bien nous appeler 33 1 84 22 71 71. On vous rappelle bien sûr immédiatement si vous nous appelez. On écoute, c'est du rap, c'est du hip-hop. Stan, vous connaissez bien,
oui.
Nicoletta?
Oui, je le connais bien.
Le nom de la chanson?
C'est Thelodon.
Ça veut dire en français ?
Je te veux ici.
Πες μου το γιατί σαν τρελός κάθε βράδυ εδώ να σ' αναζητώ. Σε θέλω εδώ, σε θέλω εδώ. Knockout. Πόσο ακόμα να περιμένω για να ακούσω το δικό σου στόμα. Ότι με τα νιώσεις και ότι με αγαπάς. Ότι νοιάζεσαι για μένα και για μένα πονάς. Πώς, πώς, να ξεχάσω πώς, να σε σβήσω πώς, πώς. Στη ζωή μου να βάλω ξανά εμπρός. Βάζω την καρδιά μου σε πάγο και περιμένω να γυρίσεις για να αρχίσω και πάλι να ανασένω. Πες μου το γιατί να μην είσαι εδώ τώρα πια και πω να μπορώ. Κάποιο σου γαλήκια τα χείλησα πρώτα και πάλι να τα φιλώ. Πες μου το γιατί σαν τρελός κάθε βράδυ εδώ να σ' αναζητώ. Σε θέλω εδώ, σε θέλω εδώ. Πες μου το γιατί εδώ, σου φτάνα σε κρατώ. Γιατί, γιατί με άφησες μονάχο να μπορώ. Να χαραμίζεσαι σε ξένα αγκαλιά και σε ξένα χείλη πλέον να μοιράζεις δουλειά. Θέλεις εδώ, σου φτάνα σε κρατώ. Γιατί, γιατί με άφησες μονάχο να μπορώ. Σε θέλω εδώ, σε θέλω εδώ.
Grèce, la génération sacrifiée peut-elle rebondir? On est en direct chez 7 milliards de voisins sur RFI et nous en discutons avec nos invités. Joëlle Dallègre, chercheuse spécialiste de la Grèce. Nicolas Terrousseau, vous êtes étudiante grecque à Paris depuis un an pour faire votre master en communication. Vous nous disiez d'ailleurs juste avant qu'on écoute Stan que la moitié de vos amis étudiants en licence à l'université d'Athènes étaient partis comme vous, pas forcément en France, beaucoup en Grande-Bretagne. Nous sommes en ligne avec une enseignante à Athènes. Bonjour Efi Raikopoulou.
Bonjour à vous, à toutes les trois et à vos auditeurs.
Efi Raikopoulou, vous êtes professeure de français dans la section grecque au lycée franco-hellénique d'Athènes depuis 15 ans. Alors évidemment, c'est un endroit où les jeunes sont tout de même nettement plus privilégiés que les autres.
Tout à fait. Je pense que je vis vraiment une situation presque idéale. Mais de l'autre côté, je dois dire que tous les élèves de notre école sont déjà touchés, malgré le fait que leurs parents sont vraiment à l'abri par rapport à ce qui se passe dans certains établissements, surtout dans le public.
Alors justement, par rapport au public, on est dans un pays, la Grèce, où il y a quand même 80 000 élèves qui sont dans le privé. La hausse récente de la TVA va impacter également les prix de scolarité pour ces familles-là qui font parfois, on le disait avant le tout à l'heure, il y a quelques minutes, d'importants sacrifices pour les études, la scolarité de leurs enfants.
Ben, écoutez, il faut déjà voir le fait suivant. Les Grecs, comme votre invité Nicoletta a dit, depuis la Deuxième Guerre mondiale, les parents et les grands-parents trouvaient que améliorer l'avenir de leurs enfants passe par l'éducation. C'est la raison pour laquelle ils voulaient aspirer, et ils veulent encore aspirer, vraiment un enseignement solide, que l'école publique ne peut pas le rassurer. C'est la raison pour laquelle presque toutes les familles font suivre leurs enfants des cours particuliers ou de cours de soutien dans des écoles parallèles de l'après-midi, chose qui garantit l'entrée à l'université.
Oui, parce qu'il y a un barrage, il y a un concours pour entrer à l'université.
Exactement.
L'université sélectionne les étudiants.
Un examen national. Mais puis aussi la nécessité d'apprendre une, deux, trois langues étrangères et devient vraiment c'est une des raisons pour lesquelles presque tous les Grecs ont une relation avec ce qu'on peut dire éducation publique, privée.
Oui. Mais pourquoi vous dites que le système public, les écoles publiques, primaires, lycées, ne peuvent plus garantir un avenir aux enfants?
Et je n'ai pas dit absolument, pas tout à fait ça. Je veux dire tout simplement que c'est une des raisons pour lesquelles le système éducatif grec, à mon avis, est malade depuis très longtemps. Et cela se fait, une des raisons pour lesquelles, c'est le fait qu'on va à l'école de 8h à 14h à peu près. Mmh. Donc, on fait 7 heures d'un coup, si vous voulez, avec une récréation pause de 15 minutes. Et une des raisons, donc, c'est ça, en peu de temps, beaucoup de connaissances. Les élèves n'ont pas la possibilité de poser des questions, de pouvoir s'entraîner suffisamment, et pour pouvoir vraiment consolider les connaissances, ils voient, c'est une mentalité aussi, hein, pas toujours correcte, ils voient comme une nécessité de s'adresser à des professeurs qui peuvent les faire réviser mieux leurs cours.
Oui, c'est-à-dire que vous nous décrivez un système, comme vous le dites, malade bien avant la crise, qui n'a pas su s'adapter, devenir plus efficace pour mieux former les élèves.
Absolument.
En dehors du phénomène de la crise économique, c'est bien ça.
En dehors du phénomène de la crise économique, mais la crise, une fois arrivée dans le pays, les malades à ce moment-là est en coma. C'est beaucoup plus, les choses sont vraiment, je vous donne un exemple. La rentrée pour les écoles en Grèce, c'est le 13 septembre. Mmh. Alors, cette rentrée s'est annoncée immédiatement avec des écoles de la périphérie fermées à cause du fait que deux postes vacants des professeurs a obligé cette fermeture, si vous voulez. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, il y a 3-4 jours, a annoncé le recrutement des profs suppléants pour pouvoir faire ouvrir ces écoles. C'est la première fois depuis que je me rappelle, depuis que je suis enseignante, d'un phénomène pareil.
Vous reconnaissez Nicoletta dans ses propos d'enseignante, Nicoletta Rousseau, vous qui êtes étudiante, dans ce qui est décrit du système?
C'est vrai, parce que il faut garder à l'esprit que pour que je puisse entrer dans l'université, je devais suivre des cours particuliers ou des cours dans une école privée pour arriver à acquérir toutes ces connaissances.
À compenser finalement les défaillances de l'école publique dans laquelle vous étiez. Hein,
c'est
ça.
C'est pas un problème de l'école publique, parce que même les étudiants des écoles privées
doivent prendre d'autres cours dans d'autres écoles privées.
Exactement.
Oui, Joël Dallègre.
Mais ce qui en fait sous-tend cette histoire de cours privés, c'est le fait que l'entrée en faculté soit en fait un concours, puisqu'il y a un certain nombre de places limitées selon les disciplines, etc. Donc en fait, dans l'idée que vous voulez être celui qui sera pris et pas le voisin, vous vous dites que même si votre diplôme et si vos résultats au lycée sont pas mauvais, il faudrait qu'il soit meilleur. Parce qu'en fait, vous allez exprimer des vœux. Et donc, on peut très bien vous dire, avec vos notes, désolé, vous ferez pas de médecine, mais si vous voulez faire de la gymnastique, vous pouvez, etc.
Et donc, pour quelle raison la Grèce a conservé justement cette sélection à l'entrée à l'université, alors que ça n'existe pas, en tout cas pas de cette façon-là, dans la plupart des universités de l'Union européenne?
Bon, je pense qu'il y a eu d'abord...
Si en Europe de l'Est, on continue d'avoir une sélection.
Il y a peut-être eu à l'origine un motif financier, et puis l'idée qu'il fallait peut-être pas, à une certaine époque, avoir trop de gens instruits, parce que finalement ça faisait des protestataires. Et puis il y a aussi l'appétit des Grecs pour ces études universitaires. Je veux dire qu'en pourcentage, malgré ce concours, ils n'ont pas moins d'étudiants que des autres États européens. Et que si tous les bacheliers grecs étaient pris à l'université, on pourrait peut-être doubler les effectifs. C'est aussi le pays qui a le plus d'étudiants à l'étranger, mais c'est depuis toujours. Pas
c'est
seulement
faute de place dans les universités grecques aussi également. Efir Aykopoulou, juste en quelques mots, quelle est la situation de vos collègues qui enseignent dans les lycées publics, déjà en termes de salaire par rapport à vous?
Alors, mes collègues, d'abord, se trouvent devant des situations très très difficiles, point de vue effectif de leur classe. Des élèves qui, du jour au lendemain, ont changé, si vous voulez, leur famille ont changé de mode de vie. Donc, des élèves qui arrivent souvent sans avoir bien mangé, ou des élèves qui voient petit à petit leurs espoirs s'amoindrir. Et finalement, la majorité de mes collègues qui travaillent dans le public ils ont vu dès le premier mémorandum leur salaire perdre à peu près, je vous donne un exemple, ils touchaient tout autour de 1700, 1600, etc. aujourd'hui.
Restez en ligne avec nous, Efira et Koupoulou. On se reparle juste après le flash dans 3 minutes, la faillite de l'école en Grèce.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Deuxième partie sur RFI. Nous parlons toujours des jeunes, de l'école, de l'université en Grèce et de cette génération sacrifiée. Peut-elle rebondir? On en discute avec vous, Joël Dallègre, spécialiste de la Grèce, maître de conférence à l'INALCO, l'Institut des langues orientales. D'ailleurs, vous nous parliez, ça nous faisait froid dans le dos en première partie d'émission de cet article dans la presse grecque que vous aviez lu il y a très peu de temps, qui disait, oh oui, dans 15 ans, peut-être que les jeunes peuvent espérer quelque chose. On espère avant tout de même. Nicoletta Rousseau, vous êtes étudiante grecque en master de communication à l'Université Paris 2. Vous avez donc quitté l'Université d'Athènes comme la moitié de vos amis, nous disiez-vous en première partie d'émission, pour étudier à l'étranger. Certes, c'est une tradition ancienne pour les étudiants grecs les plus aisés, mais néanmoins, ce chiffre est devenu aujourd'hui extrêmement important. On a largement 130 000 jeunes diplômés qui sont partis depuis le début de la crise dans un petit pays, rappelons-le. 11 millions d'habitants. Nous étions en ligne et nous sommes toujours en ligne avec Efira Raikopoulou. Je vous ai coupé à cause du flash. Madame Raikopoulou, vous êtes professeure de français dans la section grecque au lycée franco-hellénique d'Athènes. Et on parlait des salaires, de vos salaires d'enseignants, publics, privés. Nous faisions ces comparaisons-là, Efira.
Alors, si vous voulez, moi je fais partie d'un corps de professeurs vraiment à l'abri parce que notre école est un oasis, c'est une école de but non lucratif. Donc, si vous voulez, les salaires chez nous n'ont pas baissé. Mmh. Mais par contre, les salaires dans le public ont vraiment presque, je vous dis, il y avait des professeurs qui touchaient 1700 il y a 5 ans et aujourd'hui ils touchent à peine 1000 euros et cet événement, ce fait, a touché les salaires en général de tous les enseignants dans les autres écoles privées aussi. Ça crée immédiatement, si vous voulez, des tendances dans le marché, sur le marché, et donc il y a des propriétaires des écoles privées qui même imposent aux enseignants de faire des heures sup sans être payés.
C'est ce qui veut dire qu'en fait les enseignants, qu'ils soient dans l'économie de marché, dans le système privé ou qu'ils soient dans l'austérité budgétaire des fonctionnaires, sont impactés de manière extrêmement importante sur leur salaire. Hein, Nicoletta, vous nous disiez que votre papa est fonctionnaire, il n'est pas du tout dans l'enseignement, mais il a des salaires comparables à un enseignant, c'est ça? Et il a perdu combien en pourcentage? Plus d'un quart de son salaire là,
oui,
depuis le début de la crise?
C'est vrai, c'est 600 euros par mois.
Efira Koupoulou, les enseignants à l'heure actuelle dans les lycées sont dans quel état d'esprit?
Comme toute la société grecque, tétanisée, entre guillemets les mots. Et on attend beaucoup de choses. Je crois que l'espoir auquel on avait droit la première partie de cette année, c'est-à-dire après le mois de janvier 2014, cet espoir a donné sa place à ce moment-là à une sorte de, comment dire, presque de panique. On reste passif, on attend et on espère peu.
Oui, ça, moi je suis pas directement dans le coup puisque je suis française en France, etc. Mais d'après ce que je vois de mes amis, tétaniser est vraiment le mot. C'est-à-dire vraiment dans un état qui est à la fois le manque d'espoir complet parce que plus personne ne vous en donne, l'impression qu'on ne peut rien faire. Et que tous les jours, en plus, quand vous ouvrez votre journal, on vous annonce une catastrophe supplémentaire qui va tomber sur le dos de quelqu'un.
Joël Dallègre, vous m'avez dit quand on s'est installé dans le studio, j'ai une collègue qui vient de me demander de lui envoyer des cahiers. Jamais j'aurais pu imaginer que j'enverrais des cahiers en Grèce. On a du mal à le croire.
Eh oui, s'il se trouve que c'est une professeure, en l'occurrence de lycée, qui approche des 1000 euros et qui est seule avec deux enfants. et qui m'a expliqué qu'à cause justement du prix, enfin de l'histoire de l'augmentation de la TVA, le prix des cahiers avait, comme le reste, subitement fortement augmenté, et qu'elle cherchait, alors elle avait cherché sur Amazon en fait des cahiers qui étaient pas trop chers, mais avec le prix de l'envoi, etc., ça annulait tout l'avantage.
On voit bien les problèmes, donc, la débrouille au quotidien. Merci beaucoup Effie Rakoupoulou d'avoir été en ligne avec nous. Bonne journée à Athènes. On est en ligne avec Arirou Proscoli maintenant, professeur d'université. Bonjour Madame Proscoli.
Bonjour Emmanuel Bastide.
Vous êtes
bonjour à tous les invités et bonjour à tous les spectateurs.
Merci aux spectateurs.
Merci pour l'invitation.
Voilà, en tout cas, on est ravis de vous accueillir chez 7 milliards de voisins. Vous êtes professeur de linguistique appliquée, didactique de français, langues étrangères à l'Université d'Athènes. Donc vous êtes dans le département de lettres françaises. Aujourd'hui, dites-nous dans quelles conditions étudient et vivent vos étudiants avant que nous ne parlions des professeurs.
Bon, c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Alors, je pourrais donner par un exemple. Un jour, j'ai essayé de les faire travailler sur un extrait du livre de Rousselet qui s'appelle « L'allergie au travail ». Et j'espérais, quoi, que ça pourrait les motiver, ils pourraient participer à la conversation, travailler sur le document, etc. Et, bon, au bout d'un moment, la réponse que j'ai vu la non-réaction de mes étudiants, c'était que, mais madame, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à cette question, puisque on ne pourra pas trouver de travail après l'obtention du diplôme.
Nicoletta Rousseau, étudiante dans le studio, opine de la tête.
Hein. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous.
Je trouvais que c'était un sujet très mal choisi.
C'est vrai, c'est
mais
vrai.
Mais je pensais que ça allait les motiver quand même.
Mais dites-nous finalement aujourd'hui comment se projettent les jeunes. Bon, bien sûr, il y a ce sentiment qu'ils n'ont pas d'avenir. Mais par exemple, est-ce que les choix d'études ont évolué avec la crise grecque?
Non, pas du tout. C'est-à-dire que les études de médecine, de droit, etc. sont toujours cotées, sont toujours préférées. Et bien qu'il y ait moins de demandes, quoi, de participation, et étant donné que le système de participation à l'accès à l'enseignement supérieur donne le droit pratiquement à tout le monde, à tous les bacheliers, de revendiquer une place dans différentes écoles, dans différentes facultés. Et il y a toujours des demandes, mais il y a des désistements quand il s'agit de participer à certaines matières, à l'examen, donc à l'épreuve de certaines matières. Étant donné surtout, enfin, ce sont les résultats de cette année, et ce qu'il faut remarquer, c'est que cette année, les sujets ont été beaucoup plus difficiles. Je pense que ça
les sujets
revient
pour entrer à l'université, hein.
Politique de restriction d'abaisser un petit peu les accès à l'enseignement universitaire. Ouais. Il y a moins de places donc cette année.
Vous confirmez Nicoletta que le concours est devenu très difficile pour entrer
c'est
à l'université.
C'est vrai. J'ai entendu que c'était trop difficile cette année, mais
vos amis se sont plaints, ceux qui sont restés, hein, c'est ça.
Oui, mais en fait, il faut souligner que le nombre d'avocats et de médecins en Grèce est presque pareil que celui en France. Ça veut dire que...
Vous êtes 11 millions, donc il y en a beaucoup trop, encore.
C'est vrai.
En même temps, les médecins grecs s'exportent merveilleusement bien, l'Angleterre et l'Allemagne.
Ils ne peuvent pas trouver...
Même en France, il y a beaucoup de médecins grecs qui viennent en France.
On parlait de l'état d'esprit et des conditions d'études de vos étudiants aujourd'hui pour survivre, pour aider leur famille, pour que la famille puisse joindre les deux bouts. Est-ce que malgré tout, ils trouvent ce qu'on appellerait vraiment des petits boulots parallèlement à leurs études ?
Oui, en effet, il y a de plus en plus d'étudiants qui viennent nous annoncer qu'ils ne peuvent pas suivre les cours, donc l'assiduité s'est amoindrie. Et ils nous expliquent ça parce qu'ils doivent travailler pour aider la famille, pour avoir les moyens de poursuivre leurs études. Mmh. Alors, très souvent, c'est dans l'entreprise de famille. Mmh. Mais ils trouvent aussi des petits boulots dans des bars, des restaurants. Mmh. Et puis après, ce qu'on réalise, c'est que...
Les petits jobs en Grèce ne sont pas suffisants en fait pour soutenir les étudiantes. Mais il est parfois vaine de faire tout ça.
Tellement le salaire horaire est bas.
Mais si
les jeunes sont exploités carrément.
Oui. 200 euros, 300 euros.
Et puis après, on voit de plus en plus une influence, par exemple, de vouloir participer aux stages pratiques dans des entreprises ou dans des écoles, parce qu'ils sont rémunérés par des fonds européens.
Joël Delay.
Donc ils apprécient ces stages, tandis qu'autrefois, il n'y avait pas une influence, à vrai dire.
Joël Dallec.
Je voulais dire qu'il y a aussi une influence du fameux concours d'entrée, dans la mesure où... vous vous retrouvez admis dans l'université où vos points vous ont conduit. Et donc, en fait, vous n'êtes pas du tout, ni nécessairement chez vous. Vous pouvez être à l'autre bout de la Grèce, donc ça suppose à nouveau des frais.
Il y a 23 universités dans le pays.
Voilà, des frais pour se soutenir, s'entretenir ailleurs que chez soi. Mmh. Et il y a des tas d'étudiants maintenant qui, justement, depuis quelques années, finalement, renoncent pour... parce qu'ils ne peuvent pas soutenir le fait d'être obligés de se trouver un logement, etc., ailleurs que dans la ville de leurs parents.
Argyro Proskoli, est-ce que l'université grecque aujourd'hui parvient à s'adapter aux difficultés économiques des étudiants, au chômage qui est massif, qui touche près d'un jeune sur deux de moins de 25 ans aujourd'hui? Alors moins pour les diplômés, mais tout de même, c'est très important.
Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose à la remarque de Jo Allègre, avec qui on a été à un moment à l'Institut français. Bonjour Jo. À l'Institut français de Thessalonique. Alors donc, apparemment, le coût des études pour un étudiant qui change de domicile pour suivre ses études, donc il va, par exemple, il est athénien, mais il doit aller à Thessalonique, est calculé d'après une recherche avec le montant de 3 500 jusqu'à 5 500. C'est ce que les étudiants répondent dans une recherche. Donc ce qui fait que dans une durée de 4 années, de 4 à 5 années, la durée d'études universitaires, ça représente une somme de 30 à 40 000 euros pour une famille, pour un enfant.
Ouais, c'est complètement inabordable. Argyro Proskoli, est-ce que vous sentez aujourd'hui, vous êtes fonctionnaire, donc vous êtes encore d'une certaine façon relativement protégé, est-ce que vous sentez un clivage?
Pas du tout.
Pas du tout, parce que votre salaire a fortement diminué. Mais je veux dire, vous avez
on
un travail.
On est protégé comme toutes les fonctionnaires, parce qu'on ne risque pas de se trouver, de se mettre à la porte.
Quand les jeunes vous disent, mais madame, pourquoi voulez-vous qu'on travaille sur un article sur le travail? On n'en aura pas du travail. Est-ce que vous sentez finalement entre vous et vos étudiants un clivage générationnel, un clivage économique aujourd'hui ou pas? Ou plutôt, vous êtes dans le même bateau?
En effet, mais ce n'est pas très évident dans les facultés des lettres. C'est-à-dire qu'on n'est pas protégé parce que notre salaire diminue et la diminution est de l'ordre de 40% pratiquement pour tous les fonctionnaires, pour tous ceux qui travaillent dans le secteur public. Mais c'est-à-dire on se sent en mauvaise position quand on a affaire à des jeunes qui ressentent, qui ont l'impression d'investir dans leurs études. Mais qui finalement ont peur de ne pas trouver un emploi.
Mais vous sentez une part de responsabilité, une part de culpabilité ou pas?
Oui, en effet. Mais vous savez, les systèmes sont tellement fort qu'on ne peut pas intervenir, même si on propose des solutions ou des remédiations à certains phénomènes qui posent des problèmes.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Arjiro Proscoli, professeur de linguistique au département de lettres françaises de l'Université d'Athènes, et merci de nous avoir livré votre sentiment à l'heure actuelle sur la crise de l'enseignement, du système éducatif en Grèce. En Grèce, justement, cette génération sacrifiée peut-elle rebondir? C'est la question que nous posons dans l'émission aujourd'hui.
Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις καλά? Άκουσέ με λίγο προσεκτικά. Πρέπει να αλλάξουνε τα πράγματα. Τα δικά μας μυαλά να ζουνε φανταστικά. Ιδανικά είναι όλα όσα έχεις μάθει να εκτιμάς, και δανεικά αυτά που λίγο υποτιμάς. Τι μου προτιμάς, ότι απλόχερα προσφέρουν? Σαν δύσκολα όμως όλοι τους να ξέρεις πως απέχουν. Λίγοι αντέχουν κι αυτά μην το παραδέχεσαι. Όσο μεγαλώνεις πιο πολλά πράγματα δέχεσαι. Έρχεσαι στα λόγια μου, μάλλον καταλαβαίνεις. Είσαι μόλις 17 και λες πως δεν αντέχεις. Φράθερα όλοι να περνάμε καλά, και να μην μας νοιάζει για τίποτα. Να μην έχουμε προβλήματα, και μας να μην είμαστε ορούνε θύματα. Να είμαστε όλοι ωραία, σαν μια όμορφη παρέα. Και να μην ζηλεύουμε, όσο κι αν δεν το πιστεύουμε. Μη ζηλεύεις, μη μπερδεύεσαι. Ξέρεις δεύτερος θα έρχεσαι. Πόσο θέλεις να πορεύεσαι μες στη μοναξιά. Μην ζηλεύεις, μη μπερδεύεσαι. Στην καρδιά του κόσμου καίγεσαι. Όταν μόνος σου πορεύεσαι δίχως συντροφιά.
C'est le groupe de rap Beau, et le titre de la chanson, je ne voudrais pas passer pour ridicule.
Tatella.
Merci, ça veut dire je voudrais.
Je voudrais, oui, c'est ça.
Joël Dallègre, la génération du non au référendum, on a beaucoup dit que les jeunes avaient massivement voté non, on les a accusés de se saborder, de se tirer une balle dans le pied, de ne pas faire le jeu de l'Europe aujourd'hui. Dans quel état d'esprit, sur le plan politique, sur le plan plus largement, hein, au-delà de leurs conditions d'études et du système éducatif, dans quel état d'esprit sont les jeunes?
Je veux dire que je suis pas jeune moi-même, donc c'est déjà un peu dur de parler pour les jeunes dont je ne connais que quelques spécimens. Et moi, j'ai tendance à connaître des gens qui sont effectivement très très non. Mais il n'y a pas que des jeunes qui ont voté non. Mais ce non, en fait, est justifié par, je dirais, l'échec de ce qui a précédé. C'est-à-dire qu'on vous dit, voilà, ça fait 5 ans que vous vous serrez la ceinture, ça va être merveilleux. Au bout des 5 ans, on vous dit, finalement, on s'était trompé, on aurait peut-être pas dû faire comme ça. Et d'ailleurs, non, ça va pas, donc il faut que vous fassiez encore plus. Donc, je veux dire, à la limite, on se demande pourquoi même il y a des gens qui pourraient encore voter oui, quoi. C'est comme quand on se demande pourquoi il y a tant d'abstentionnistes.
Au moment des législatives, Nicoletta Rousseau, vous parliez politique avec vos amis en Grèce?
Oui. Tout le temps. Oui, tout le temps.
Ça.
Oui, parce qu'en fait, à partir de la crise, on s'est rendu compte que la politique affecte nos vies, notre vie. C'est ça.
Vous êtes plus politisé qu'avant?
Tout à fait. Tout à fait. Je ne sais. Ça ne reflète pas sur les chiffres des personnes qui votent, mais dans les conversations des jeunes, la politique est un sujet très, très actuel, en fait. Et plus maintenant qu'avant.
Ouais. Mais néanmoins, aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la politique? Même si, certes, Syriza est resté au pouvoir, est-ce qu'il y a très clairement entre vous, dans votre génération, puisque vous avez 25 ans, Nicoletta,
oui,
dans cette génération des 25 ans, le désenchantement est très palpable?
En fait, je pense que on était optimiste que les réformes, que l'austérité, que les mesures d'austérité vont être plus médiocres. Mais je pense que ça ne va pas changer. Je pense que même si le gouvernement a fait des efforts pour la situation s'améliore, je ne sais pas si c'est efficace parce qu'en fait les leaders d'Europe le plan des leaders n'est pas efficace pour l'amélioration de la crise. C'est la, en fait, ça, toutes les mesures conduisent à l'aggravation du problème.
Malgré les sacrifices qui sont faits par vos familles, qui ont perdu une grosse partie de leur salaire.
Tous les prix Nobel d'économie, les derniers prix Nobel d'économie depuis une dizaine d'années, ont tous dit que, comme M. Strauss-Kahn, que c'était un plan mortifère, qui en fait fait la même chose que les deux précédents. En plus accentué. Donc, je veux dire, vu les résultats des deux précédents, on voit pas pourquoi le troisième serait mieux. Et en plus, espérer, enfin, ils sont gentils s'ils espèrent encore quelque chose du gouvernement. Parce que je veux dire que le plan, il est fait.
C'est vrai.
On sait que on peut pas le changer. Et qu'en plus, le gouvernement n'a le droit de faire une loi qui ne serait pas dans ce plan. Que s'il l'a d'abord fait accepter et proposer à Bruxelles. Donc,
on
je veux dire,
appliquer,
sa marge de manœuvre.
On va appliquer les mesures décidées. C'est ça.
Mais néanmoins, aujourd'hui, on dit qu'il y a une pépinière, alors toute petite, mais une pépinière de start-up, que la Grèce qui réussit, c'est la Grèce qui exporte, qui regarde vers l'étranger, qui parle les langues étrangères, qui surfe sur ses talents de l'agroalimentaire, les développeurs informatiques, les services. Est-ce que cette génération-là, on peut espérer une résilience des jeunes aujourd'hui?
Ces choses-là existent. Maintenant, est-ce qu'elles peuvent vraiment tout d'un coup donner de l'emploi à la moitié de la population?
Il y a des jeunes autour de vous, Nicoletta, qui ont 25 ans comme vous, qui sont restés en Grèce et qui vous donnent de l'espoir?
En fait, oui, j'ai des amis. En fait, ma meilleure amie est en Grèce. Elle espère, elle ne veut pas partir. Même si elle est qualifiée, elle a fait son master et tout ça. Et je pense, oui, qu'il y a un nombre de jeunes Grecs qui veulent rester, soutenir l'économie et l'avenir de la Grèce. Mais je ne sais pas si c'est possible, vu que le salaire est 500 euros. Et il y a des fois qu'on n'est pas payé.
Avec ce salaire-là, vous ne comptez pas rentrer en Grèce à la fin de vos études? Vous aurez fini vos études dans...
Non, je ne vais pas rentrer en Grèce, non. Moi.
Vous savez que vous ne rentrerez pas en Grèce, aujourd'hui?
Oui. Je ne vais pas rentrer en Grèce, non.
Pourquoi?
Parce que je voudrais essayer de chercher un emploi en France. Pour avoir un meilleur avenir. Si je rentre en Grèce, je veux rester chez mes parents, je vais être très mal payée malgré tous ces sacrifices et toutes ces études que j'ai déjà.
Vous trouvez que ça n'en vaut pas la peine? Est-ce que parfois vous ressentez une forme de culpabilité de faire partie de cette fuite des cerveaux, de cette fuite des talents grecs?
Non.
Ou bien c'est sauf qui peut?
Non, parce qu'en fait j'essayais de trouver un emploi, j'étais stagiaire et je n'étais pas payée.
Pendant un an, vous avez été stagiaire non payé.
Exactement, exactement.
Joëlle Dallègre.
Oui, moi, ceux que je connais qui en fait choisissent de rester en Grèce, c'est pas vraiment, enfin la plupart, j'ai peut-être des mauvaises relations. C'est pas par optimisme sur l'avenir de la Grèce, c'est par volonté de rester en Grèce. C'est-à-dire par une forme d'amour du pays ou de patriotisme ou d'idée qu'on lâche pas le bateau qui tombe, mais ça veut pas dire qu'un jour ils vont pas se lasser et qu'ils lâcheront peut-être pas eux aussi. Enfin, j'avoue que j'en connais un qui, après plusieurs années, c'était pourtant un médecin qui avait fait une spécialité en chirurgie, au bout d'un certain nombre d'années de chômage, il a effectivement lâché la Grèce pour l'Allemagne.
Mais est-ce que le passé de conquête du monde dans l'Antiquité grecque pèse aujourd'hui dans l'inconscient collectif des jeunes? Parce que nous, en Europe, c'est forcément ce qu'on se, c'est la question qu'on se pose, ou pas du tout?
En fait, les Grecs ont une relation un peu bizarre avec leur passé. Très bizarre. Et c'est une question d'éducation, en fait. Et je pense que on ne se rend pas compte qu'il y a une continuité dans l'histoire. C'est pas seulement l'Antiquité, c'est l'histoire byzantine, ce sont les Turcs. Il y a une continuité qui je pense que les Grecs ont avec laquelle les Grecs ont une relation bizarre.
Compliqué en tout cas.
Compliqué parce qu'on est fier de l'Antiquité grecque. Mais ça ne veut pas dire que on doit supprimer le fait que la Grèce n'était pas là quand pendant le siècle des Lumières. Les principaux de la philosophie qui est née dans le centre de l'Europe.
Alors, la génération sacrifiée, puisque clairement, il faut parler d'une génération sacrifiée, Joëlle Dallègre, hein, pourra-t-elle rebondir? Et si oui, à quelles conditions?
Pour l'instant, elle rebondit à l'extérieur, parce qu'en fait, malgré les problèmes de l'éducation dont on a parlé, il y a quand même des étudiants grecs qui sortent avec un niveau extrêmement convenable et qui trouvent, parce que souvent à l'étranger, ils y vont en master ou en doctorat et qui ne trouvent aucun problème ou un problème linguistique pendant un an et c'est tout. Et qui ensuite obtiennent des diplômes aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, moins en France finalement, et trouvent du travail dans tous ces pays-là. Et dans les universités étrangères, même au niveau des professeurs, pas seulement des élèves, vous avez pas mal de Grecs. En fait.
Sur la scène beaucoup internationale plus, des chercheurs, les Grecs sont très présents.
En tant que chercheur, il y en a beaucoup plus que ce que représente la Grèce comme pourcentage de l'humanité. Donc, ils ont quand même fait des études en Grèce qui les ont pas sortis.
Mais pour le pays lui-même ?
Pour le pays lui-même, malheureusement, à l'heure actuelle, là, c'est sûr que l'émigration actuelle est énorme et tragique.
Et laissera forcément des traces pour le fonctionnement de la Grèce elle-même ?
Oui.
Parce que la Grèce se vide de ses talents, continue de se vider de ses talents aujourd'hui.
Oui.
C'est vrai, parce qu'on a...
Allez-y, très rapidement.
Parce qu'on avait des immigrants pendant les années 60, mais c'était des ouvrières, des...
Aujourd'hui, c'est les bacs plus 3,
exactement.
Voire plus les bacs plus 4 ou 5. Merci à toutes les deux, Joëlle Dallègre, maître de conférence à l'INALCO, l'Institut des langues orientales, et Nicoletta Roussou, bonne chance, étudiante grecque en master de communication à l'Université Paris 2. Merci à toute l'équipe, Éléonore Krenik, Camille Néran, Romain Dubrac, Sandrine Straram. Vous pouvez bien sûr nous écrire à 7milliards@rfi.fr pour réagir ou réagir sur les réseaux sociaux. Et demain, 7 milliards de voisins, toutes les tendances de la mode dans vos villes. Les voisines et les voisins, vous êtes, vous le savez, tous les jours nos meilleurs informateurs. Alors rappelez-nous, postez vos clins d'œil, les dernières lubies dans vos campus. On en parle demain.